Au-delà du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la semaine dernière, nous étions à la 23e conférence des Nations Unies sur le climat. Si vous avez suivi nos émissions, vous avez entendu que les maires et les responsables de collectivités territoriales, notamment du continent africain, sont venus nombreux à cette COP23 pour échanger sur la manière dont ils font la transition écologique sur leur territoire. Et c'est essentiel car l'enjeu est désormais dans les villes qui abritent plus de la moitié de la population mondiale. Réussir la France avec ses communes, c'était le thème du centième congrès des maires qui s'est tenu justement cette semaine à Paris. Les thématiques transition écologique et énergétique étaient à l'ordre du jour. Alors qui sont ces maires pionniers en France et que font-ils? Nous en parlons tout de suite avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Mathieu Riva.
Bonjour.
Vous venez de publier « Ces maires qui changent tout, le génie créatif des communes » dans la collection du Domaine des Possibles chez Actes Sud, dans lequel vous vous interrogez, je vous lis, sur la capacité de l'échelon municipal à jouer un rôle dans l'accélération des transformations écologiques, sociales et démocratiques que réclame le 21e siècle. Alors si vous en avez fait un livre, c'est que vous y croyez.
Oui, du coup, effectivement, l'objet du livre, c'était de réfléchir à cette question du local, d'abord. C'est de dire que le niveau local est depuis un moment, en fait, au cœur des enjeux militants, citoyens, puisque c'est un espace, en fait, où les gens peuvent expérimenter et retrouver une capacité d'agir contre, justement, souvent un sentiment d'impuissance généralisé. Mais on s'est rendu compte que cet échelon local, il est rarement interrogé par le biais en fait des communes. Souvent elles sont soit une toile de fond en fait avec une commune qui soit s'oppose, soit donne éventuellement un peu de ressources matérielles ou financières, mais en revanche, c'est rarement interrogé sous l'angle de dans quelle mesure en fait les municipalités peuvent aussi être à l'initiative de ces changements que réclame le 21e siècle.
Comme vous l'écrivez, hein, recenser ce que font les villes de toute taille d'ailleurs, c'est aller chercher des outils, des pensées utiles à notre réflexion sur l'avènement d'une société écologique, sur tous les enjeux de la transition.
Oui, une des préoccupations du livre, c'était effectivement d'essayer de traiter en fait tous les aspects possibles de la transition, qu'elle soit énergétique, que ce soit aussi des questions d'autonomie alimentaire, que ce soit les questions démocratiques. Donc effectivement, ce qui a guidé aussi le choix de l'échantillon qu'on a finalement retenu, c'était d'avoir une palette assez large pour essayer de couvrir en fait toutes les questions clés qui sont à l'ordre du jour.
Et c'est vrai que c'est une nécessité parce que quand on observe les monstres qui sont en train de naître, dans votre livre vous expliquez qu'en 1900 il n'y avait que 12 villes qui dépassaient le million d'habitants et en 2030 il y en aura 750 dont 150 en Chine avec en moyenne 6,5 millions d'habitants. C'est assez vertigineux.
C'est clair qu'à l'avenir, mais déjà aujourd'hui, en fait, la place des villes dans l'enjeu notamment climatique est essentielle. Ce qu'on peut notamment dire sur les plus grandes villes, donc les plus grandes métropoles, c'est qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui se développe où finalement les villes débordent un peu de leur cadre ou de leurs prérogatives classiques pour essayer justement de prendre en charge les enjeux climatiques.
Mais pourtant la gestion de l'eau, de l'énergie, de la pollution, tout ça c'est dans leur cadre classique normalement de prérogatives, non?
Oui, alors en fait il y a effectivement des prérogatives qui leur sont attribuées. L'enjeu aujourd'hui pour elles c'est de dire que l'État finalement prend en charge ces questions avec une efficacité très relative, pour le dire avec un euphémisme. Et que donc, c'est de leur responsabilité aussi, parce qu'elles ont une capacité politique, une capacité de mobilisation, aussi une capacité financière, de prendre en charge ces enjeux-là et de pas attendre finalement une décision étatique. Donc il y a notamment le C40, qui est un réseau des plus grandes villes dans le monde, qui ont choisi, et Paris est avec Anne Hidalgo, qui en est la présidente, essayer d'impulser en fait et de mettre à l'ordre du jour politique un certain nombre de questions, notamment la réduction des gaz à effet de serre, sur la question du transport, puisqu'elles sont en première ligne en fait sur ces enjeux-là.
Alors le C40, en effet, c'est un réseau qui est extrêmement puissant, hein, puisqu'il y a 85 métropoles qui représentent 600 millions d'habitants et 25% du PIB mondial, mais aussi 70% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est là que la boucle est bouclée. Alors d'où l'importance d'innover pour limiter les impacts, et c'est ce que vous avez cherché à identifier dans ce livre, parce que c'est aussi une bonne échelle pour innover la ville.
La ville, en fait, elle a cette force ou cette capacité, d'une part, d'être moins bureaucratisée qu'au niveau étatique. Donc, il y a une espèce d'agilité, en fait, qui est plus forte pour pouvoir prendre des décisions, lancer des appels d'offres. Et puis, la commune, c'est aussi ce qui est le plus proche, en fait, du citoyen. Et nécessairement, c'est une échelle à laquelle on peut facilement voir les changements s'opérer.
Et inciter les gens à s'engager aussi.
Et inciter les gens à s'engager, du coup. C'est plus concret, finalement. Et puis, les questions qui sont celles des maires, c'est des questions très concrètes. La question de la circulation, la question de la réhabilitation immobilière. Donc, tout ça sont des sujets qu'ils ont l'habitude de traiter et qui, de fait, rend l'action politique plus palpable, quoi, plus tangible que quand on est à une échelle étatique où il y a des enjeux de politique parfois un peu politiciennes qui donnent l'impression d'introduire, en fait, une distance entre l'action politique et puis ce qu'on peut voir ensuite au quotidien dans nos vies.
Et puis les villes ont un impact énorme aujourd'hui, on le disait, dans le monde. Dans votre livre, vous dites, c'est assez vertigineux ça aussi, que chaque jour, le cumul des espaces gagnés par les villes dans le monde équivaut à la surface de Paris. C'est-à-dire que les villes s'étendent.
Voilà, donc ça c'est un des grands enjeux, c'est la question de l'étalement urbain et de la manière dont les villes, effectivement, grignotent jour après jour, en fait, des espaces, ou voire même grignotent sur des espaces agricoles. Encore l'exemple de Paris... On peut le voir par exemple avec le projet de centre commercial Europa City, à quelques kilomètres en fait dans le nord de, au nord de Paris. C'est les dernières terres arables en fait d'Île-de-France. Elles risquent d'être mangées.
Parce qu'il y a une grosse mobilisation contre, évidemment.
Elles risquent d'être mangées par un espèce de complexe commercial. C'est un mouvement de fond aussi, c'est-à-dire que les hyper, supermarchés, etc. connaissent quand même une moindre fréquentation que par le passé. Et donc on voit arriver des nouveaux concepts qu'on appelle retailment, qui est un espèce de concept hybride entre le commerce, mais aussi l'entertainment, c'est-à-dire
l'amusement,
tout ce qui
la
est
distraction.
L'amusement, le divertissement, etc. Et donc on voit des projets apparaître qui vont essayer d'intégrer en fait toutes ces dimensions. Et le projet Europa City est précisément dans ce projet-là. Donc c'est important de lutter contre ces projets qui finalement vont à contre-courant de ce qu'il faudrait faire pour essayer de... non pas nécessairement inverser la tendance puisqu'on n'en est malheureusement plus là, mais en tout cas d'être plus résilient face aux chocs qui vont arriver.
L'innovation se fait donc à l'échelle des territoires de toute taille. Alors pour incarner ce que vous venez d'expliquer, je vous propose de nous rendre dans le nord de la France, à Lours-en-Goële, une ville de 7000 habitants du département du Pas-de-Calais qui incarne la transition écologique, comme nous l'explique son maire que Pauline Mocor est allée rencontrer.
Je suis une ville dont beaucoup sont partis. Enfin, pas tous encore, mais ça se rétrécit.
Je m'appelle Jean-François Caron, je suis maire de Lours-en-Goële. Lours-en-Goële, c'est une commune qui est dans le bassin minier du nord de la France et qui a été très marquée par le développement non durable et qui est aujourd'hui un peu pionnière sur toutes ces questions-là. Donc en fait, notre ville n'existe que parce qu'il y avait du charbon, un peu comme la conquête de l'Ouest aux États-Unis, c'est-à-dire que nos petits villages, il y a de ça deux siècles, ont été complètement bouleversés par la découverte du charbon. On a des populations qui sont venues de toute l'Europe et sur le sol de la commune, on a 9 puits de mine. Et pour donner un exemple des impacts de cette activité, le sol de notre commune a baissé de 15 mètres par les affaissements miniers. Tout le charbon qu'on a retiré fait que le sol a baissé. Alors par exemple, ça veut dire que nos réseaux d'eau sont fracturés par les affaissements miniers, que les rivières ont changé de sens, la nature a été un peu saccagée et aujourd'hui on a beaucoup de friches sur notre territoire. Et dernier exemple, la qualité de l'eau a été très dégradée parce que avec les cités minières où il n'y avait pas d'assainissement, les activités industrielles, on a un territoire donc qui a des séquelles de l'activité du charbon. Mais en plus, dans la période où on vit les problèmes de dérèglement climatique, d'une certaine manière, on en est un peu responsable, puisque nous, on a exhumé du charbon, qui est typiquement de l'énergie fossile, qui aujourd'hui fait que ça relargue du carbone dans l'atmosphère et on participe au changement du climat. Donc, il y a une sensibilité forte à dire, est-ce qu'on est capable de tirer les leçons du passé ? Et aujourd'hui, comme on a investi depuis maintenant 20 ans dans le développement durable, dans les énergies renouvelables, dans la mobilité douce, dans le retour de la nature, dans le développement d'activités économiques liées à la transition. Donc cette commune, elle incarne la transition du modèle d'hier vers le modèle de demain.
Ça commence en fin des années 70. Les habitants et certains personnages locaux se projettent dans l'avenir et se demandent du coup comment ils en sont arrivés là, comment ils en sont arrivés à être une ville exploitée, martyrisée par le charbon. Ça se traduit par une ville noire, il y a énormément de poussière dans l'air. On ne pouvait pas faire sécher les draps dehors, les draps blancs deviennent noirs tout de suite. Ça se traduit par de l'eau polluée aussi, parce qu'il y a de l'exploitation industrielle. Le paysage change, vous avez des montagnes faites à main d'homme, parce qu'on extrait du charbon et tous les résidus sont entassés les uns sur les autres, et petit à petit ça fait des montagnes.
Les terris.
Les terris, exactement. Et du coup, un territoire du coup, qui se transforme complètement, qui est organisé par la mine et pour la mine. Du coup, la transition ne se fait pas du jour au lendemain, et quand la mine s'arrête, c'est 300 ans d'exploitation du charbon qui, en l'espace d'une dizaine d'années, arrive à la fin. Vous avez des générations et des générations qui sont habituées à vivre pour et par le charbon. Alors, les parents se retrouvent au chômage et puis les enfants n'ont plus de perspective d'avenir. Parce qu'à l'époque, les gamins qui travaillaient bien à l'école, on leur disait qu'ils allaient être ingénieurs à la mine. Donc, effectivement, il y a tout un système d'organisation sociale, économique, qui s'effondre. Et donc, ça se traduit par énormément de chômage et puis surtout une perte énorme de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on va devenir ?
Et en fait, c'est dans les années 95, donc ça a pris quelques temps, on doit réviser notre plan d'occupation des sols, c'est-à-dire quel usage on va donner aux zones agricoles, comment la ville va s'étendre ou pas, etc. Qu'est-ce qu'on veut pour notre ville ? Et donc on a été pendant à peu près un an et demi en relation avec les habitants dans les quartiers, les milieux économiques, les commerçants, enfin, on a fait intervenir des experts. Et ce qui était frappant, c'est que dans les échanges, revenait cette idée que, ben, par exemple, on a été détruit sur le plan de la nature, on veut remettre de la nature en ville, on veut remettre des arbres. On a une eau qui est très polluée et qui nous coûte très cher en plus, parce qu'il faut beaucoup d'actions pour la rendre potable. Et donc, à peu près tout le monde a dit, préserver la qualité de l'eau, ça va être très important. Et c'est comme ça qu'on a déclenché toute une série de premières actions. On a généralisé la récupération des eaux dans tous les bâtiments. Toutes les nouvelles constructions, on impose qu'on récupère les eaux de pluie parce que, par exemple, 40% de ce qu'on dépense en eau potable, c'est pour vider les toilettes. Est-ce qu'on a besoin d'une eau potable qui a été traitée pour vider des WC ? Non, on peut utiliser de l'eau de pluie, évidemment. Et donc, on a aussi un habitat qui est très abîmé parce que les mineurs ne payaient pas à charbon. C'était du gratuit. Donc l'isolation des maisons, vous imaginez, c'était absolument pas le sujet. Et donc là, les gens se retrouvent avec des factures de chauffage très importantes, puisqu'ils n'ont plus charbon gratuit, la mine est finie. Et donc, la question de l'éco-construction, de comment on va commencer à isoler les maisons, apparaît assez évidente. Quand vous payez aujourd'hui l'équivalent de 2000 euros pour payer du chauffage électrique dans des maisons mal isolées, je peux vous dire que ça pèse très très lourd sur le budget des familles. Et dans les années 2000, on signe donc une charte du cadre de vie et d'écologie urbaine avec les services de l'État. On est une des premières communes de France à faire ça. Et on développe tout un travail autour d'opérations expérimentales et innovantes.
Que se passe-t-il ? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville. Et il n'y a plus rien.
Excusez-moi. Je ne vous ai pas cassé les oreilles. Je vais faire un deuxième bruit important, c'est la porte. Ça fait du bruit aussi.
Donc on rentre sur le site.
Je m'appelle François-Xavier Calin, je suis responsable développement des énergies renouvelables au Centre de développement des éco-entreprises. C'est un pôle d'excellence régional qui a vocation à développer les éco-technologies et accompagner les éco-entreprises sur des nouveaux marchés liés à l'environnement. Nous allons sur la plateforme LimiWatt qui est un démonstrateur de la production d'énergie photovoltaïque dans le Nord-Pas-de-Calais.
C'est un grand champ.
C'est effectivement un ancien espace minier qui est non constructible, qui est le long de l'autoroute et en face des deux terrils du 11-19 et qui permettent d'avoir ces 22 générateurs qui produisent de l'électricité.
C'est assez impressionnant, ces 22 panneaux solaires assez grands.
Et au milieu, vous avez des trackers, les trackers un axe qui suivent la course du soleil du matin au soir et qui les trackers deux axes qui vont s'incliner plus fortement en hiver quand le soleil est plus bas.
Oui, parce que le Nord-Pas-de-Calais, on peut pas dire que ce soit la région la plus ensoleillée de France.
Non, on peut pas le dire. Mais on a largement suffisamment d'ensoleillement pour produire de l'électricité avec le solaire. Et on a l'avantage, c'est qu'on a une température moyenne beaucoup plus faible que dans le sud. Un module photovoltaïque n'aime pas l'élévation de température. Et qu'au plus il fait chaud au niveau du module photovoltaïque, au plus il va perdre de puissance.
Alors, là, vous arrivez à mesurer un petit peu combien vous produisez d'électricité par an ?
Oui, grosso modo, on a en moyenne ici une production annuelle de l'ordre de 63 000 kWh.
Ça équivaut à la consommation de combien de ménages ?
C'est de l'ordre de 20 ménages, puisqu'un ménage moyen en France, c'est 3500 kWh par an, hors chauffage. Le site a ça de génial, c'est que pédagogiquement, être juste en face des deux terrils les plus hauts d'Europe permet de montrer ce qu'était l'exploitation de l'énergie de stock, l'énergie du passé, et de démontrer la pertinence des énergies du futur, puisqu'on sait très bien que cette technologie-là, dans les 10 prochaines années, ce sera une technologie très commune dans les maisons et dans les bâtiments tertiaires. C'est-à-dire que vers 2020, on devrait avoir un kilowattheure solaire qui coûtera moins cher que le kilowattheure généré par notre mix énergétique français.
Mais pour fournir une commune comme Le Sangoël, donc de 7000 habitants, il faudrait combien de champs de panneaux photovoltaïques comme ça ?
Il faudrait, je pense que pour alimenter la ville de Lens-en-Goëlle, il faudrait quelque chose comme 6 ou 7 mégawatts de puissance, c'est-à-dire 100 fois plus que ce qu'on a actuellement sur le site. Avec une problématique qu'on a quand même, c'est qu'on produit l'énergie électrique quand il y a du soleil. Donc ici, beaucoup l'été, bien évidemment, beaucoup moins l'hiver et pas la nuit. Et donc on a une problématique de stockage liée à l'intermittence qui a intégré si on veut couvrir l'intégralité de la consommation des ménages du secteur.
Mais alors comment faire pour stocker ?
On peut stocker avec des batteries électrochimiques. Fabriqués par des fabricants depuis très longtemps. C'est ce qu'on utilise même pour l'éolien en Allemagne, pour des générateurs de plusieurs mégawatts. On peut le stocker dans l'hydrogène, en produisant de l'hydrogène, et bien évidemment le stocker de manière hydraulique. C'est ce qu'on fait avec nos barrages pour stocker l'énergie des centrales, notamment nucléaires, quand les besoins sont moins importants au niveau français.
Ce qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, c'est pas simplement mettre une couche de peinture verte sur tout. C'est vraiment penser à un développement qui va permettre de créer de l'emploi et de l'activité, mais en étant beaucoup plus attentif au devenir des hommes et au devenir de la nature, de l'environnement. Et progressivement, tout ça commence à nous donner un statut de ville pilote. Une ville où on n'utilise plus un seul litre d'eau potable pour les usages de la ville. Une ville où tous les espaces verts n'utilisent plus du tout de pesticides. Une ville où toutes les constructions sont en éco-construction depuis 1997. Sur des bâtiments publics, sur des classes, sur de l'habitat social, sur de l'habitat résidentiel, sur de la réhabilitation de grandes friches industrielles. On a tous les exemples d'éco-construction, de techniques d'isolation, de nouveaux matériaux, etc. Et simultanément, du coup, comme on commence à être repéré comme un phare, viennent se développer sur la ville des investissements économiques, des acteurs qui disent c'est là qu'on veut investir parce que c'est là qu'est un peu la mecque du développement durable, enfin le lieu symbolique. Donc la ville avait déjà une image très environnementale et elle a acquis une image économique comme étant un peu le fer de lance de tous ces nouveaux métiers qui apparaissent par rapport à la transition. Et donc, ça nous a permis de franchir un cran, et par exemple, d'avoir des gros investissements sur de la centrale solaire. Et donc, ça va faire apparaître des nouveaux métiers, des nouvelles filières économiques. We are the Village Green Preservation Society.
Les villes qui s'engagent dans la transition écologique sont de plus en plus nombreuses de par le monde. La France a la chance d'avoir de nombreux maires pionniers. Nous en parlerons dans la deuxième partie de l'émission, toujours en compagnie de Mathieu Riva, auteur de « Ces maires qui changent tout », le génie créatif des communes chez Actes Sud. A tout de suite.